VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 à Abidjan et à Bouaké, 18h30 à Niamey. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les démobilisés annoncent un accord sans révéler le contenu. Au Niger, une vingtaine de personnes envoyées en prison dans l'affaire de trafic de bébés, dont l'épouse de Ama Amadou. Nous reviendrons sur le retour sur la scène politique sénégalaise d'Abdoulaye Wad à l'âge de 91 ans.
Il considère sa décision comme le résultat des manipulations qui auraient été orchestrées par son fils Karim Wad, lequel aurait envie de revenir.
Au Maroc, nouvelle manifestation cette nuit à Al-Oseima pour réclamer la libération de Nasser Zefzafi.
En fait, la stratégie de l'État, ils ont montré leur incapacité à déconflier un conflit social.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les démobilisés. Ces anciens rebelles avaient manifesté leur colère il y a 10 jours à la suite des primes perçues par des soldats mutins. Le point avec Eric Manirakiza.
Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré qu'un accord a été trouvé. On ne paie pas les primes, mais nous avons trouvé un terrain d'entente, a-t-il ajouté. De son côté, Diomed Megbe, porte-parole des démobilisés, a précisé, après leur rencontre à Abidjan, que le gouvernement a fait de belles propositions et la protestation est terminée. Aucune des deux parties n'a voulu révéler le contenu de l'accord. Les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée. Ils réclamaient des primes de 18 millions de francs CFA chacun, c'est-à-dire la même part de butin que les anciens rebelles intégrés à l'armée ivoirienne et qui ont obtenu chacun 12 millions de francs CFA après plusieurs mutineries. 5 démobilisés ont trouvé la mort, dont 4 le 23 mai, lors de la dispersion musclée de leur mouvement Bouaké, ancien fief de la rébellion.
Au Niger, une vingtaine de personnes, dont l'une des épouses de l'opposant Ama Amadou, ont été incarcérées. Elles avaient été condamnées en mars à un an de prison pour un trafic de bébés. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est à partir de la gendarmerie nationale où elles ont été convoquées pour recevoir la notification de leur incarcération que la vingtaine de personnes condamnées dans cette affaire a été conduite dans les prisons de Saï pour les hommes et Kolo pour les femmes. Parmi ces dernières, l'épouse de Ama Amadou, condamnée lui-même à un an de prison mais absent du territoire national depuis mars 2016. Il y a aussi l'ancien ministre Abdoulabo, actuellement député à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir attendu près de 2 mois pour les incarcérer? Une source judiciaire affirme à VOA Afrique que c'est le temps pour rédiger l'arrêt final de condamnation, mais aussi pour remplir un certain nombre de formalités, notamment la signification par voie d'huissier aux condamnés de la décision. Dans les milieux proches des personnes incarcérées, c'est plutôt la récente saisie par Ama Amadou de la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire qui a fait que la décision est en train d'être exécutée par peur de la voir cassée par la juridiction communautaire. En rappel, cette affaire de bébé importé a fait grand bruit ici au Niger depuis 2014 qu'elle a été révélée par un journal de la place. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a mis fin aux fonctions de 2 ministres, David Oudengar aux mines et Hamid Mahamat Dahalob à l'aménagement du territoire. Selon l'AFP, les 2 ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. Règlement de compte sanglant entre policiers et militaires au Nigeria. Des officiers de la marine ont tué 2 policiers à Calabar, dans le sud-est du pays. Ils ont ensuite incendié le poste de police. Saïlou Joubril, le commandant de la marine, a assuré que les coupables seront traduits en justice. Le chef de la police de l'État, Inoua Hafiz, a relativisé « Il ne s'agit que d'une mésentente entre jeunes officiers à un checkpoint ». Au Kenya, l'explosion d'un engin artisanal a tué 4 policiers et 1 civil dans la ville de Boré, dans le nord-est du pays. Il y a une semaine, des attentats revendiqués par les islamistes Shebab avaient fait 14 morts, tous des policiers. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un véhicule transportant 7 policiers a sauté sur un engin explosif à Baoré, dans le nord-est du Kenya. 2 policiers sont toujours portés disparus. On ignore si la victime civile se trouvait à bord du véhicule de la police. Aucune revendication n'a été faite pour le moment, cependant. Il y a juste une semaine, des attentats similaires avaient tué 14 policiers. Toutes ces attaques ont été revendiquées par les islamistes somaliens Shebab. Le chef de la police kenyane, Joseph Boané, a toutefois mis en garde contre le risque de multiplication des attentats pendant le mois de Ramadan. Le Kenya a subi plusieurs attaques terroristes depuis le début de son intervention militaire en Somalie. En 2013, l'assaut contre un centre commercial de Nairobi avait fait 67 morts. Et en 2015, à l'université de Garissa, les djihadistes avaient massacré 148 personnes.
Les autorités éthiopiennes ont annoncé aujourd'hui avoir désactivé les services de l'Internet mobile dans le pays sans fournir d'explication. Il s'agit de la deuxième coupure du genre ces derniers mois, après celle ayant duré plusieurs semaines l'année passée, alors que le pays est le théâtre de manifestations antigouvernementales qui ont été violemment réprimées. En Tunisie, des familles de migrants portés disparus depuis leur tentative de rejoindre l'Europe par la mer ont accusé les autorités de leur pays de négligence. Au total, 503 dossiers ont été déposés au ministère des Affaires étrangères. Depuis 2011, des milliers de Tunisiens ont tenté de gagner par la mer l'Italie. Un grand nombre de leurs proches restent sans nouvelles de leur sort.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, la capitale afghane a connu un de ses plus violents attentats ce matin. L'explosion d'un camion piégé a tué au moins 90 personnes et fait des centaines de blessés dans le quartier diplomatique de Kaboul. Les précisions de Jacques Aristide.
La déflagration déclenchée près de l'ambassade d'Allemagne a été causée par une citerne à eau contenant plus d'une tonne et demie d'explosifs, d'après des sources à Kaboul. Elle a été actionnée par un kamikaze, provoquant une onde de choc dans la ville et d'énormes dégâts dans cette zone, pourtant ultra protégée, vu qu'elle abrite de nombreuses ambassades barricadées derrière de hauts murs. Les talibans ont affirmé sur Twitter ne pas être impliqués dans l'attaque et l'a fermement condamnée. Ils ont par le passé rarement revendiqué les attentats dans lesquels le nombre de victimes civiles s'avérait très lourd. Quant au groupe État islamique, auteur de plusieurs attentats sanglants dans la capitale afghane ces derniers mois, il ne s'était en revanche pas exprimé à ce stade. Selon le ministère afghan de la Santé, beaucoup de femmes et d'enfants figurent parmi les nombreuses victimes et le bilan pourrait encore s'aggraver à mesure que de nouveaux corps sont retirés. Des gravats.
La Maison-Blanche a condamné, je les cite, cette attaque atroce. Le fait que cette attaque ait eu lieu pendant le mois du Ramadan souligne sa dimension barbare, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche. Le suspense continue autour de l'accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump a promis sur Twitter qu'il rendrait sa décision publique dans les prochains jours. Plusieurs médias américains annoncent que les USA vont se retirer de cet accord conclu entre 190 pays fin 2015 à Paris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement de la planète. Dans le même temps, l'Union européenne et la Chine vont soutenir l'accord de Paris sur le climat lors d'un sommet en fin de semaine à Bruxelles. L'Allemagne a annoncé L'Allemagne a annoncé mercredi vouloir vérifier des dizaines de milliers de titres de séjour accordés à des demandeurs d'asile après qu'un soldat allemand soupçonné de préparer un attentat eut réussi à se faire passer pour un réfugié syrien. Ces vérifications qui vont démarrer cet été vont concerner jusqu'à 100 000 dossiers déposés ces deux dernières semaines par des demandeurs d'asile âgés de 18 à 40 ans et originaires d'une dizaine de pays, selon le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière. Au Brésil, le groupe JEF, impliqué dans le scandale de corruption qui éclabousse le président Michel Temer, a accepté de payer une amende de plus de 3 milliards de dollars pour éviter un procès. Les entreprises du groupe ont été ciblées par plusieurs enquêtes anticorruption. Une d'entre elles dans le cadre d'un récent scandale de viande avariée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Abdourahman Dia.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a inauguré ce matin une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à Mombasa. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure accompli dans le pays depuis son indépendance en 1963. Il devrait asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Une cérémonie en grande pompe a débuté dans la ville portuaire de Mombasa, depuis laquelle M. Kenyatta a rejoint la capitale Nairobi dans un train de passagers. Un trajet de 472 km. Le projet est financé par la Chine. Son coût, 2,8 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, Mediterranean Shipping Company, MSC, le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, a annoncé la signature d'un contrat de concession d'une durée de 35 ans avec le port de San Pedro, portant sur l'exploitation de son terminal à conteneurs. La moitié des exportations du cacao ivoirien transite par le port de San Pedro. Le Rwanda veut booster ses revenus touristiques. Le pays prévoit 444 millions de dollars de gains cette année, contre 404 millions de dollars en 2016. Selon les acteurs du secteur, cette hausse de 10% des revenus est largement réalisable. Le Rwanda est classé 11e pays africain en termes de compétitivité touristique par le World Organization Forum. Les autorités rwandaises ont entrepris ces derniers mois de nombreuses initiatives pour améliorer l'attractivité de leur industrie touristique, avec notamment la relance de la compagnie aérienne nationale Rwandair.
Place maintenant à la page sport, présentée ce soir par Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Donc bien entendu, nous allons parler foot et évidemment, la grande nouvelle, Arsène Wenger est prolongé à Arsenal.
Oui, c'est en Ligue anglaise. Hein. L'entraîneur français de 67 ans a été prolongé pour 2 saisons à la tête du club anglais d'Arsenal, avec pour ambition de redresser la barre après une saison en pleine tempête. Il prolonge son contrat au moment même où les fans sont à bout de nerfs. Une absence de la Ligue des Champions et un naufrage contre le Bayern Munich seront la septième victoire en Coupe d'Angleterre samedi dernier a permis à Arsène Wenger de redorer un peu son blason.
Alors, évoquons maintenant le tennis et Roland-Garros, bien sûr, avec Milos Raonic accroché.
Oui, le Canadien, sixième joueur au mondial, a été bousculé par le Brésilien Rogério Dutra Silva, 79e mondial, avant de se reprendre et de l'emporter en 4-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 pour accéder au troisième tour de Roland-Garros. Raonic affrontera au prochain tour l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez. Il est numéro 3 mondial, retombé au 153e rang.
Et puis, bien entendu, demain, c'est le début de la finale tant attendue, la finale de la NBA.
Oui, pour la troisième année consécutive, hein, cette finale NBA va opposer à partir donc de demain Cleveland à Golden State. Ce duel attendu depuis le début de la saison va départager deux équipes déjà entrées dans l'histoire. 7 joueurs qui débuteront à Oakland demain le match numéro 1 ont en effet participé au All-Star Game en février dernier, le match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs NBA. Golden State, meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires et 15 défaites, a foncé en finale en seulement 12 matchs, tous gagnés avec un écart moyen de 16,3 points face à Portland 4-0, Utah 4-0 et San Antonio également 4-0, du jamais vu dans l'histoire des playoffs NBA. Et puis Cleveland, de son côté, a eu besoin d'un match de plus, hein, mais a fait tout aussi forte impression en dominant tour à tour Indiana 4-0, Toronto 4-0 et Boston qui a un peu résisté avec 4-1. Donc demain, il faudrait être devant son petit écran, hein, parce que Ça va être une grosse finale.
Moi, j'attends ça avec impatience.
Voilà, on verra si l'une ou l'autre équipe pourra s'en tirer avec 4-0.
Merci beaucoup, Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur a clôturé hier la période dépôt des listes de coalitions qui entendent compétir pour les législatives du 30 juillet prochain. L'opposition, qui espère imposer une cohabitation au président Macky Sall, part en ordre dispersé. Mais c'est surtout l'annonce du retour de l'ancien président de 91 ans, Abdoulaye Wade, qui fait couler beaucoup d'encre à Dakar. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint Momar Dieng, le directeur de publication du journal Nouvel Hebdo.
L'opinion est assez partagée. Du côté du pouvoir, les gens sont plus ou moins choqués de voir que Abdoulaye Wade, après sa défaite de 2012, puisse vouloir revenir et diriger une liste législative. Et cela est analysé toujours du côté de la mouvance présidentielle, comme un moment de revanche pour lui-même, Wade, après sa défaite de 2012. Pas seulement du côté du pouvoir, mais même sur les flancs du Parti démocratique sénégalais, qui est le parti de Abdoulaye Wade. Il y a une dissidence conduite par son ancien chef de cabinet, Pape Samoubou, et par son ancien ministre, Fango Senghor, qui Wade n'aurait jamais dû accepter ce nouveau challenge. Et il considère sa décision comme le résultat des manipulations qui auraient été orchestrées par son fils Karim Wade, lequel aurait envie de revenir parce que, derrière tout cela, il y a un peu l'espoir ou l'espérance d'une victoire à l'élection. Il y a aussi une frange des Sénégalais qui se réjouissent un peu, de ce retour de Wade. Et souvent, c'est en réaction par rapport à ce qu'ils considèrent comme une panoplie de mauvaises politiques, de mauvaises politiques menées par le président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012.
Est-ce que Abdoulaye Wade est toujours populaire auprès des Sénégalais? Certains pensent que c'est ce qui justifie la décision de cette coalition de le placer en tête de liste.
Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que quoi que l'on puisse dire de l'homme, je pense qu'Abdoulaye Wade a encore un bassin électoral assez important. Maintenant, depuis 2012, le PDS s'est notablement affaibli avec le départ de plusieurs de ses tenants.
Cette opposition est très éclatée, si on peut le dire ainsi. 45 listes selon les médias sénégalais. Quelles sont les chances de cette opposition qui veut imposer la cohabitation à Macky Sall?
Dans l'histoire politique plus ou moins récente du Sénégal, je pense que les partis au pouvoir, les coalitions qui sont au pouvoir ont toujours largement gagné les élections législatives à cause justement du mode de scrutin majoritaire, le mode de scrutin départemental. Donc je pense que moi, d'une façon générale, à moins qu'il y ait une grosse surprise, je pense que la majorité présidentielle, la coalition d'Elma Bokayakar, pourrait se retrouver largement vainqueur de ces législatives.
Le journaliste sénégalais Momar Dieng, il était joint à Dakar.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis à 18h sur Universel ce mercredi sur VOA Afrique. Selon votre expérience personnelle, est-ce que le téléphone cellulaire fonctionne bien? Pensez-vous avoir un bon rapport qualité-prix? Utilisez-vous des moyens de télécommunication gratuits? Pour y répondre, laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Soyez au rendez-vous pour vérifier si ça marche bien. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
En RTC, le président Joseph Kabila s'est rendu dans le Kassai central. C'est sa première visite dans la province depuis le début en septembre d'une vague de violences meurtrières. Il a déjà reçu différents leaders d'opinion. Solange Niamoulissa a joint Sostem Kambidi, journaliste à la radio communautaire, télévision chrétienne à Kananga, au Kassai central.
Le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé à Kananga ce mardi. il n'a fait aucune déclaration parce qu'il était prévu qu'il tienne un meeting populaire, la population l'attendait, mais il a allégé une réunion de sécurité au bureau du gouverneur. Depuis ce mercredi matin, le chef de l'État accorde des audiences à l'unité de la province, les chefs coutumiers, les leaders des partis politiques, des activistes et de la société civile.
Comment les gens réagissent-ils par rapport à la visite du président Kabila au Kasaï?
Les réactions sont diversifiées. Pour les chefs coutumiers, il ne va pas, le chef de l'État, la pacification de la province du Kasaï central en particulier et de l'espace du Grand Kasaï en général. Pour les acteurs politiques, le porte-parole du rassemblement au Kasaï central a dit tout à l'heure qu'il devait transmettre un message au chef de l'État. C'est que le chef de l'État retire de la liste du secteur opérationnel l'espace Grand Kasaï parce que depuis que les militaires, le secteur opérationnel est en poste au Kasaï, les acteurs politiques de l'opposition notent qu'il y a eu plusieurs violations des droits de l'homme. Donc pour eux, il faudrait que le chef de l'État abroge cette ordonnance qui fait du Kasaï un secteur opérationnel de l'armée. Par contre, pour la société civile, c'est peut-être plus un engagement fort dans le respect des droits de l'homme et aussi l'action contre tous les auteurs que la société civile dit jusqu'à présent avoir identifiés comme étant auteurs de plusieurs cas de viol des femmes, plusieurs cas de tuerie à travers la province. Mais les Kassaïens lambda, lorsque nous l'avons rencontré, tout le monde a fait l'appel de mettre mot. Et il y a même une banque tout à l'heure qui nous a dit que nous voulons que le chef de l'État nous rassure que le processus d'enrôlement en Kasaï va bientôt commencer pour qu'on aille aux élections.
Qu'en est-il du problème de Kamuina Nsapu et comment ça se passe avec son successeur?
Le successeur de Kamuina Nsapu, M. Jacques Lipumakadega, est entre deux avions, entre Kananga et Kinshasa. Il ne s'est pas encore rendu au village. Pour l'instant, il y a des cours sur le territoire de Dibaya, qui est le centre même du phénomène de Kamuina Nsapu, où plus personne ne peut y mettre aujourd'hui le pied. Il n'y a pas longtemps, pour la passation des examens du baccalauréat, il y a eu des inspecteurs qui sont rentrés en catastrophe parce que des musiciens dans le territoire de Dibaya ne voulaient pas faire la passation des examens du baccalauréat.
Sostem Kambindi, journaliste à la radio communautaire Télévision Chrétienne à Kananga, au Kasaï central.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Maroc, vague de tension dans le Rif, la région du nord du royaume. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs centaines de personnes protestent contre les conditions économiques et sociales. Le leader de ce mouvement de contestation a été arrêté, mais la grogne ne faiblit pas. Pour en savoir plus, Salwa Jaafari a joint par téléphone l'analyste politique Mustapha Tossa.
Les faits ont commencé par un accident à la limite très stupide. C'est un vendeur de poissons à la sauvette qui s'est fait écraser par un camion poubelle devant témoin. C'était une sorte d'étincelle qui avait provoqué de nombreuses manifestations et de nombreuses colères de la part des gens de Al-Husseima. Alors cette étincelle avait été le début d'une série de manifestations de colère des gens qui est devenu au fil des mois très revendicatif. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que cette série de manifestations a duré à peu près 7 mois. Leurs revendications sont d'ordre social et économique. Alors on sait que cette région, cette ville de Al-Husseima souffre depuis des années d'une espèce d'enclavement et de marginalisation. Il n'y a pas beaucoup de projets économiques et il n'y a pas beaucoup de services publics.
Monsieur Tossa, parlons un peu de la gestion de l'État marocain face à ces manifestations. Il y a eu certains dérapages, on l'a tous vu dans certaines vidéos. Quelle est la stratégie de l'État dans ce cas particulier? Est-ce une bonne stratégie à votre avis?
En fait, la stratégie de l'État, ils ont montré leur incapacité à découpiller un conflit social. Il y a eu des manifestations depuis 6 mois et pendant 6 mois, on a laissé faire. Alors on a laissé faire, les historiens nous diront pourquoi. Chacun avait sa propre agenda. On sait très bien qu'à Rabat et à Casa, à l'intérieur des partis politiques, il y avait un gouvernement qui était en train de se former, il y avait des forces politiques qui avaient intérêt à ce que ça se forme, d'autres qui avaient intérêt à ce que ça capote. Donc la gestion a été un échec total parce qu'on ne peut pas laisser un mouvement social grossir de cette manière-là, jusqu'à risquer une confrontation, une rupture totale avec le pouvoir central. Donc c'est un échec. Et en plus, quand il y a eu l'envoi d'une délégation ministérielle, les arguments présentés par cette délégation apparemment n'ont pas été suffisamment convaincants. Il n'y a pas eu de savoir-faire pour gérer cette crise, à tel point que s'il n'y avait pas l'erreur qui a été commise par Nasser Zardari, il n'aurait jamais pu être arrêté de cette manière-là. Nasser Zardari a commis une erreur politiquement et socialement mortelle, c'est de rentrer dans une mosquée, de prendre la force par force la parole et de prêcher un discours religieux qui est aux antipodes de la philosophie religieuse du pays. Donc il a commis une erreur et c'est ce qui a permis à la justice marocaine de lancer un mandat d'arrêt pour l'arrêter et donc pour le juger.
Mustapha Tossa, analyste politique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle du partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, et ce, dans le but de souligner les risques pour la santé liés au tabagisme, et bien sûr, plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. À Abidjan, une conférence de presse a eu lieu sur le sujet, et Kia Badou a joint Lassina Toll, président des ONG de lutte contre le tabac de la Côte d'Ivoire.
La journée mondiale 2007, dont le thème est « Tabac, une menace pour le développement », il était important pour nous d'attirer l'attention de nos décideurs sur un certain nombre de priorités pour notre pays, notamment l'adoption d'une loi relative à la lutte anti-tabac. Le 17 décembre 2014, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi en Conseil des ministres relatif à la lutte anti-tabac. Nous sommes en 2017. Jusqu'à ce jour, le projet de loi n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale. C'est l'interférence de l'industrie du tabac qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, le projet de loi n'a pas été transmis, bien que adopté en Conseil des ministres, n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale.
L'OMS parle de 7 millions de personnes qui perdraient la vie suite aux conséquences du tabac. Et parmi les mesures citées, il y a l'augmentation de façon drastique du prix du tabac. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure qui peut marcher?
Oui, c'est une mesure qui peut marcher parce que c'est des mesures qui ont été prouvées ailleurs. On s'est rendu compte que quand on augmente d'un dollar, pratiquement, on a 42% déjà des ressources qui sont mobilisées pour nos pays. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne mesure et que dans le cadre même de notre campagne, c'est ce que nous avons essayé de lancer comme message fort, qui se plaignent nos gouvernements dans les pays en voie de développement, qui se plaignent qu'ils n'ont pas des ressources. Une surtaxe sur les produits du tabac serait une bonne source de devises de fonds pour financer le développement.
Journée anti-tabac, journée de sensibilisation. En quoi cela vous semble-t-il utile?
C'est utile parce que, vous savez, en matière de lutte contre le tabac, aujourd'hui, ce n'est pas dans tous les pays une priorité. Parce que dans nos pays, on se dit que la première préoccupation, c'est de lutter contre la pauvreté. Oubliant qu'il y a certains facteurs, comme le tabac, comme ça, qui exacerbe au contraire, qui amène plutôt à la pauvreté. Vous vous imaginez que les fumeurs, qui généralement sont des pères de famille, préfèrent payer de la cigarette, qui en réalité n'a aucun bénéfice sur leur santé, au contraire, qui va détruire leur santé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. 90% des cancers en Côte d'Ivoire ont pour facteur commun le tabagisme. Les personnes qui ont le cancer et les maladies liées au tabac, de façon générale, font dépenser à l'État ivoirien plus de 27 milliards de francs CFA.
Lassina Toll, président des ONG de lutte contre le tabac de la Côte d'Ivoire.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h à 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Souleymane Tarawale. Au micro, Clermont Azibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Restez avec nous, tout de suite notre émission interactive à votre avis présentée par Nathalie Barge. Avant, un petit point à nouveau sur l'information. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.